Chapitre 9e, Bourbon, Saint-Denis, Baleine et Espadon, Saint-Paul, Volcan. Il y a 30 lieues de l'île de France à Bourbon. Il y en a au moins 150 de Bourbon à l'île de France, car les vents alizés qui soufflent constamment de la première de ces deux îles vers la seconde sont contraires pour le retour et forcent souvent les navires à pousser des bordées jusqu'en vue de Madagascar. Ainsi le veut le caprice des vents et des flots. D'ici commenceront, à proprement parler, nos curieuses courses d'explorateurs, et dès que nous aurons salué le pavillon qui flotte là-bas sur le palais du gouvernement, peut-être serons-nous bien des années sans entendre parler non seulement de la France, mais encore de l'Europe. Le courage a beau se retremper aux périls qui nous attendent et à ceux que nous avons déjà bravés, le cœur joue aussi gros jeu dans cette vie aventureuse, et il ne reste point muet en présence d'un passé qui a toutes ses affections. Le cœur est, je le sais, citoyen de l'univers. Mais sa patrie de prédilection est celle où reposent ses souvenirs de bonheur, auxquels on se rattache, d'autant plus qu'on est plus près de les perdre. Nous voici en rade, j'allais dire en pleine mer. De légères pirogues entourent le navire. Il n'y a pas de quarantaine à subir, je vais à terre. C'est une ville singulière que Saint-Denis, grande, immense par son étendue, mais bien petite si l'on n'en compte que les maisons. Un quartier seul est assez étroitement resserré pour former de véritables rues, tandis que dans les autres, on peut aller, en chassant, faire une visite à son voisin. Au surplus, cette éternelle verdure, si riche et si variée, planant au-dessus des habitations, contraste d'une façon tout à fait pittoresque avec les montagnes âpres qui d'un côté cerclent la ville et avec les cônes de lave noirâtre dessinées à l'horizon. Certes, la distance de l'île de France à Bourbon est fort légère. Eh bien, une grande différence dans le caractère des habitants se fait déjà sentir et n'échappe pas à l'observateur. Ici, même franchise, même urbanité de la part des colons que chez leurs voisins, même empressement à fêter les étrangers. Mais tout cela se dessine avec moins de forme, avec plus de rudesse. Le climat est semblable, c'est une température à peu près égale dans la plaine et dans les vallées. Mais à Bourbon, des monts gigantesques s'élèvent au-dessus des nuages et gardent leur cime des neiges éternelles. À Bourbon, un volcan sans cesse en activité jette au loin d'immenses laves par ses 20 bouches de feu. Et l'on dirait que le naturel des colons s'est en quelque sorte empreint de ces sauvages couleurs. Un fashionable de Saint-Denis est un rustre de Maurice, mais un rustre à l'allure fière, au langage indépendant. Cependant, la ville me fatigue, soit qu'elle n'ait rien d'assez bizarre pour m'en retenir, soit qu'elle ne ressemble pas assez à une cité européenne. La corvette, mouillée à 4 encablures du périlleux débarcadère, m'offrira peut-être plus de distractions, et voilà des pirogues dont je puis disposer. Je longe la côte et j'en dessine les rudes aspérités. Ce sont des remparts de lave diversement nuancés, dans les anfractuosités desquels surgissent de brillantes couches de verdure que les brisants ne peuvent anéantir. Le vent m'éloigne enfin de ces imposantes masses. Tant mieux, je rejoins le bord. La nuit était pure, une nuit tropicale, suave par les émanations de la terre et la limpidité du ciel, où scintillaient des milliers d'étoiles, dont l'éclat était affaibli par les opales rayons de la lune en son plein. On eût dit un vaste ciel noyé dans une légère vapeur. Nous venions de nous livrer à une de ces douces causeries du bord dont tout le charme est dans la frivolité, et chacun de nous descendait déjà dans sa cabine quand un roulis assez fort nous fit rapidement interroger l'horizon, dont nous supposions que soufflait une brise naissante. Tout était silencieux. Un jet brillant s'élève dans l'air. Le dos gigantesque d'une baleine plane à la surface des eaux et disparaît avec la rapidité d'une flèche. Au même instant, un poisson de moyenne grandeur bondit, s'élance et retombe frétillant. C'est l'espadon, le plus mortel ennemi du géant des mers. Dès qu'il se voit en présence, dès qu'ils se sont une fois rencontrés, il ne se fuit plus. C'est un rude combat, un combat à mort qui va s'engager. Il faut que l'un des deux adversaires au moins succombe, et souvent, après une lutte, deux cadavres servent le lendemain de pâture aux requins et aux goélands. Le plus fort, c'est la baleine. Le plus brave, c'est l'espadon, car il est sûr, lui, qu'il faut qu'il meure, vainqueur ou vaincu, tandis que dans le triomphe, la baleine ne perd jamais la vie. Oh, nous aurons eu besoin de tout l'éclat du soleil pour jouir du spectacle qui allait nous être offert. Toutefois, la lune était si belle que nous n'en perdîmes que peu d'épisodes. Le roulis ou le tangage du navire auprès duquel le combat s'était engagé nous disait la place occupée par les deux adversaires. Mais qu'on se figure l'espace envahi par la baleine menacée, en songeant que dans 15 jours, elle peut faire le tour du monde. Aussi, pour éviter le choc terrible de sa monstrueuse tête, l'espadon se montrait-il souvent à l'air, et dans sa colère, retombait-il inutilement sur le dard long et aigu dont il a été armé par la nature. Cependant, la lutte durait depuis une demi-heure, sans que la victoire se décidât. Mais entre deux ennemis aussi acharnés, tout repos est impossible. Quand la baleine se précipite sur l'espadon, si celui-ci est touché, il meurt broyé à l'instant même. Si l'espadon, après son rapide bond hors des flots, trouve sous sa lance dentelée le dos de la baleine, celle-ci n'a que quelques instants à vivre, car la plaie est profonde et le sang s'en échappe à flots pressés. Cependant, l'ardente querelle des deux combattants, qui s'étaient engagés près de nous, alla expirer loin du bord. Et le lendemain, de la grande dune, on distinguait vers l'horizon une vive couleur de sang qui occupait un vaste espace. L'espadon et la baleine avaient cessé leur lutte. Toutefois, pour les provisions nécessaires à une de nos plus longues courses, la corvette se fit forcer d'aller mouiller à Saint-Paul. Je profitai de cette seconde relâche pour visiter l'intérieur de l'île et parcourir ces belles rampes que M. de la Bourdonnais fit creuser à travers les ravins et les torrents sur les flancs des plus rudes montagnes. Oh, c'est un travail digne des Romains, complété aujourd'hui par le beau pont jeté sur la rivière des Galets, qui devient, au jour d'orage, un torrent dévastateur. C'est un spectacle assez curieux, je vous assure, que celui d'une ville qu'on cherche encore alors qu'on l'a déjà traversée. Tel est Saint-Paul, dont les maisons irrégulièrement élevées au milieu de belles touffes de verdure sont absolument voilées par les enclos qui les emprisonnent. Saint-Paul est une cité naissante et pourtant bâtie sur un sol de sable au pied du pays brûlé. Elle est toute fière de sa position topographique et semble dire aux navires voyageurs « Ici seulement, vous trouverez un abri contre les tempêtes. » Cette île a été baptisée bien des fois, appelée d'abord Mascarenhas, du nom du capitaine portugais qui l'a découvrit, elle fut désignée plus tard sous celui de la Réunion et enfin on la dota de celui qu'elle porte aujourd'hui. Un volcan très considérable, séparé du reste de l'île par un vaste enclos de rochers, y est censé sans travail. Élevé de 1500 mètres au-dessus du niveau de l'océan, 3 cratères le couronnent. M. Bory de Saint-Vincent imposa le nom du célèbre Dolomieu à celui qu'il trouva brûlant. Ses compagnons de voyage donnèrent le sien à celui qui est séparé du cratère Dolomieu par le mamelon central, véritable cheminée par laquelle les feux souterrains sont en communication avec les feux du ciel. Un tel hommage était dû à l'explorateur qui mit tant d'activité dans ses recherches, qui gravit dans une île très habitée des escarpements où nul n'avait encore pénétré, qui, franchissant 1000 précipices, donna une excellente carte du pays et s'exposant à la soif, à la faim et aux intempéries d'un ciel tour à tour ardent et glacial, découvrit, après les commerçants et les du petit Oire, 1000 productions nouvelles qui avaient échappé aux recherches de ces grands naturalistes. Toute située qu'elle est entre les tropiques, l'île Bourbon, dont les rives produisent les mêmes trésors végétaux que l'Inde, n'en a pas moins ses points glacés. Outre le volcan, à la cime duquel le mercure descend fréquemment au point de très forte congélation, il existe des plateaux extrêmement élevés où se fait sentir un froid rigoureux. Divers sommets, dont entre autres le Piton des Neiges, l'une des Salazes, à plus de 1900 mètres de hauteur. Tout est volcanique dans ces imposantes masses, évidemment sorties des entrailles du globe, d'où les arrachèrent de puissantes éruptions. Sur ce Piton des Neiges, solitaire, dépouillé, battu des tempêtes, triste dominateur d'un horizon sans bornes, on aperçoit souvent des traces de pieds humains, attestant le courage d'esclaves qui viennent chercher la liberté jusque dans les dernières limites de l'atmosphère. Là aussi gisent parfois les eaux blanchies de quelques malheureux qui préférant l'indépendance dans le désert à l'esclavage dans une société marâtre, viennent terminer leurs infortunes sur le basalte solitaire. Une riche végétation couvre l'île qui nous occupe et présente à l'œil de l'observateur la plus brillante variété. Sur la côte, on admire le caféier, le cotonnier, le muscadier, le giroflier et tous les arbres précieux de l'équateur offrant à l'homme le nécessaire et le superflu. À mesure qu'on s'en éloigne et qu'on s'élève vers l'intérieur, d'autres végétaux se pressent pour ombrager le sol. Le palmiste succède au cocotier, le vaquois au bananier. Les beignets, divers bois de construction, les fougères, qui rivalisent en hauteur avec les plus grands arbres, forment le fond des forêts. Parvenu à 700 mètres, le chasseur rencontre la zone des calumets, espèce de bambou du port à la fois le plus élégant et le plus majestueux. Ces calumets élancés, hauts de 50 à 60 pieds, ressemblent à des flèches de verdure. Sur la longueur du chaume ligneux, mais flexibles comme des anneaux, sont des verticilles toujours agités, du milieu desquels le souffle du vent fait parfois sortir des sifflements aigus. La zone des calumets dure jusqu'à 900 mètres, c'est-à-dire que son épaisseur est de 200. Elle semble servir de limite au grand bois. Le seul arbre important qu'on trouve au-dessus est cette imposante hétérophylle qui se joue en des formes, portes, mêlées, des feuilles pareilles à celles du saule et des feuilles aussi découpées que celles des plus élégants acacias. Ici, l'aspect du pays est entièrement changé. Des buissons seuls y parlent et rouges anfractueuses, de rigides graminées, de verdoyantes mousses, quelques humbles bruyères végètent à leur base. À travers les forêts imposantes qu'un tel assemblage de productions présente souvent en miniature, saillent d'immenses quartiers de lave antique, bleu, gris, rougeâtre ou couleur de rouille, qui disent à l'homme que son pied repose sur des abîmes et que cette riche végétation qu'il admire couronne de brûlantes fournaises, qui peut-être un jour seront le tombeau de tant de richesses. On a quitté le domaine de l'homme. Ici se réfugiait la chèvre sauvage, provenue des chèvres et des boucs, que jetèrent anciennement dans l'île les Portugais qui la découvrirent. Et nous pouvons remarquer en passant que ces peuples, ainsi que les Espagnols, ont rarement abordé sur une terre inconnue sans y répandre quelques richesses de leur pays. Le volcan de Bourbon, toujours en éruption, exerce ses ravages dans un espace qu'on appelle pays brûlé. La masse des laves qu'il rejette est extraordinaire. Ses flancs sont couverts de volcans plus petits qui n'y paraissent que de simples monticules, et ces monticules, cependant, ne sont pas moins considérables que ce Vésuve qui fait trembler Naples. L'île Bourbon, d'une forme presque ronde, peut avoir de 15 à 17 lieues dans son grand diamètre, allant du nord-ouest au sud-est, et 9 dans le petit qui traverse l'île du nord-est au sud-ouest. Saint-Paul et les cascades y sont les moins mauvais mouillages. L'homme a vainement tenté de soumettre les éléments afin de s'assurer, par quelques molles, un abri contre l'océan courroucé. Celui-ci a déjà brisé plus d'une fois les jetées solides qu'on commence à élever, et les rochers énormes que lui-même a vomis sont jusqu'à présent les seuls édifices capables de résister à la fureur des lames écumeuses. Et maintenant que je vais dire adieu à la colonie française, car le canon du bord nous appelle pour le départ, je crois qu'il est de mon devoir de compléter, par les études récentes auxquelles je viens de me livrer, les détails que j'ai donnés sur les diverses castes d'esclaves et de noirs répandus à Bourbon et à l'île de France. Le créole noir, moins grand en général que le blanc, est assez bien pris dans sa taille, leste, adroit et vigoureux. Il a les traits agréables, l'œil vif et intelligent et le caractère doux. Il aime les femmes avec passion. Il ne se livre pas à la boisson autant que les autres nègres et est beaucoup plus recherché dans sa toilette. Il est très apte aux arts mécaniques et ses qualités morales le font préférer à tous les esclaves des autres nations. Les Noirs et Négresses de Guinée ou Yolof sont d'une taille haute et svelte. Leur œil est grand et doux, leur figure agréable, leur air ouvert, leur peau fine et d'un noir d'ébène. Ils ont de belles dents, la bouche grande, les jambes un peu minces et le pied très fort. Ils ont plus de noblesse dans leur maintien et dans leur démarche que les autres Noirs, quelques Malgaches exceptés. Ils dansent aussi avec plus de grâce et d'expression que les autres esclaves de la colonie, et les femmes surtout sont passionnées par la chéga. Les Malgaches ne sont pas aussi grands que les Yolof, mais sont mieux faits qu'eux. Leur peau est d'une nuance moins foncée, leurs traits sont agréables, et leurs yeux doux et intelligents. Ils sont fort agiles et très adroits. Ils se divisent en plusieurs castes, dont la couleur, la taille, les formes, les cheveux et le caractère varient singulièrement.